question suivante.
Merci, oui, c'était une remarque et une question. Une remarque que, où je me réjouis quand même de voir qu'on a ce débat ce soir, parce que c'est vrai qu'à Attac, depuis l'édito de Ramonet en 98, on a toujours essayé de porter ces débats sur justement la financiarisation de l'économie et puis tous ces problèmes de paradis fiscaux. Ça fait des années qu'on essaye d'internationaliser cette lutte, entre guillemets, et puis aussi d'essayer de faire comprendre à nos concitoyens en Suisse de l'impact négatif qu'il y a à la fois sur les pays du Sud et puis aussi en termes global. Et puis je pense qu'on a quand même, enfin je suis content parce que par rapport à un certain nombre de choses, alors peut-être c'est malheureux, mais c'est qu'en fait il y a beaucoup de choses qui étaient dénoncées il y a déjà une dizaine d'années qui maintenant arrivent, et puis il y a quand même un rapport de force qui commence à un tout petit peu changer par rapport à la fin des années 90, je pense, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il y a maintenant quand même une conscience qu'il y a besoin de plus de gouvernance mondiale. Et ça, c'est aussi des débats qu'on a déjà eus en interne au niveau des altermondialistes de manière générale ou aussi à Attac. Et là, je pense, par rapport à ça, justement, si vous pouviez un petit peu prendre position, parce que moi, j'aurais une analyse où il faut plus de gouvernance mondiale, justement, pour supprimer partout les paradis fiscaux, mais qu'il faut bien commencer quelque part. Donc on commence en Suisse, après en Europe, puis qu'il y a quand même que ça évolue de manière, on peut espérer de manière positive, mais comment de manière un peu plus démocratique, nous les citoyens, on arrive à mettre une gouvernance mondiale démocratique qui permettrait de supprimer ces marchés spéculateurs qui font que détruire des économies locales et justement de relocaliser l'économie, d'avoir une économie locale qui fonctionne sans tous les aspects spéculatifs des marchés financiers. Est-ce qu'il n'y a pas justement là un besoin d'avoir une gouvernance internationale ou une internalisation justement de ces problématiques pour essayer de les régler ou de les couper à la source, et puis en même temps de revenir à des politiques locales au niveau de l'économie locale où on fait pas des hedge funds, enfin on n'a pas besoin de hedge funds sur Genève, quoi. Moi je m'en fous complètement, ce que j'ai envie c'est de manger.
Alors vous savez que la promotion économique de Genève va les démarcher à Londres.
Oui, mais c'est un problème, et je pense qu'en tant que citoyen, ouais, on aurait un discours à développer sur dire mais nous ce qu'on a envie c'est manger des produits bio de proximité, d'avoir une agriculture locale, de conserver une industrie, un artisanat qui est en train de partir, qui a été déjà détruit, mais on pourrait relocaliser une partie de cette économie productive, et puis face à cette économie financière qui n'est que destructive, enfin on le voit encore actuellement.
Alors je peux, Sébastien, ben, c'est très intéressant là, vous, avec comme monsieur avant vous, vous mettez le doigt sur le principal problème à mon avis, c'est que on parle d'une autre Suisse là, une nouvelle Suisse, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous dites qu'il faut une gouvernance mondiale, et c'est exactement ce que je regrette énormément, c'est que comme il n'y a pas de gouvernance mondiale, on n'arrive pas à appliquer une politique uniforme pour éradiquer l'évasion fiscale. Donc, dans le cadre de l'ONU, les pays du Sud ont proposé des accords multilatéraux d'échange d'informations, ce que Sébastien Gay mentionnait, mais pour des années passées, et arrive aujourd'hui à l'ONU même. On rejette toute proposition des pays du Sud d'avoir un échange multilatéral d'informations. Et qu'est-ce qui se passe? Les pays latino-américains sont pompés chaque année de centaines de milliers de milliards de dollars de recettes fiscales qui vont dans les Caraïbes et en Floride, dans les banques, chez les banques de Miami, de Floride. Donc, à cause de cette situation, on ne peut pas avoir une gouvernance mondiale. On arrive à des inégalités incroyables dans les pratiques de l'évasion fiscale et certains se permettent de continuer à la pratiquer. Alors là, bien sûr que la seule solution, c'est une gouvernance mondiale forte qui applique le même tarif à tout le monde, où on ait le même standard appliqué partout. Exactement la même chose devrait s'appliquer pour les bonus et la spéculation effrénée qu'on constate dans les grands centres financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la Suisse décide de supprimer les bonus trop élevés, la spéculation de ces deux grandes banques, mais que les États-Unis ne le font pas, c'est très bien. Simplement, la Suisse va devoir renoncer à avoir deux champions bancaires. Ça ne va plus être la puissance économique qu'elle est. Elle va aussi renoncer à son évasion fiscale et ça ne va plus non plus être la place financière qu'on connaît. Mais les autres vont continuer. Donc moi, je trouve qu'il faut absolument que tout le monde renonce à l'évasion fiscale et aussi qu'on puisse juguler les spéculateurs. Ce sont deux problèmes qui sont les mêmes. Ils ont la même racine. C'est qu'aux États-Unis, vous avez un lobby bancaire qui paye $1 milliard par année à des congressmen, des parlementaires du Congrès, pour réfréner la législation à Washington. Et donc, les bonus continuent d'être versés, la spéculation continue de se faire, le lobby du conseil fiscal et de l'industrie offshore de la fraude fiscale prospère encore, et on n'arrive pas à faire retomber tout ça. Parce qu'on a cette concurrence sans cesse déloyale menée par les États-Unis qui ne veulent pas réfréner ces pratiques-là. Alors la Suisse peut prendre effectivement une autre voie et dire, nous, on est une Suisse qui est beaucoup plus axée sur le souci environnemental, qui rejette la spéculation, mais c'est une autre économie. C'est une économie plus petite, plus modeste, à taille humaine, qui est moins globalisée, qui se laisse moins pénétrer par les multinationales et les spéculateurs étrangers, qui est refermée sur elle-même. Qu'est-ce que ça donnerait comme Suisse? Essayons d'imaginer. Est-ce que ce serait viable? Pourquoi pas imaginer cette Suisse-là?
Je crois qu'on va laisser Sébastien réagir aussi. Et puis, après, il y a une dernière question après, parce qu'il faudra que...
Le premier point, c'est que sur la question, Mme Zaki a raison, des milliards ou des dizaines de milliards de fraudes fiscales sont évadées chaque année d'Amérique latine, pas seulement d'Amérique latine, mais aussi d'Afrique, d'Asie, etc., vers des centres offshore de fraude fiscale, vers des paradis fiscaux tels que les Caraïbes ou tels que Singapour, etc. Mais ce qu'il faut ajouter immédiatement, c'est que les banques suisses sont très présentes dans ces centres. Elles sont extrêmement présentes dans ces centres. Une partie de ces fortunes vont à l'UBS ou vont au Crédit Suisse ou vont même chez Pictet à Singapour. Bien. Donc les banques suisses jouent la fraude fiscale à l'échelle internationale, non seulement en Suisse. Ça, je pense que même à la limite, elles sont plutôt en train de effectivement diminuer cette dimension-là parce qu'elles jouent la fraude fiscale avec le succursale installé dans l'ensemble du monde. Et de ce point de vue-là, il y a une division au sein des milieux bancaires suisses, entre les milieux bancaires ou les gérants indépendants, par exemple, qui ne peuvent pas s'offrir des succursales dans tous les paradis fiscaux internationaux, et UBS, Crédit Suisse, etc. Et ça, ça crée des tensions, etc. Bien. Donc ça, c'est la première chose peut-être qu'il faut dire. La deuxième chose, je suis aussi pour une gouvernance mondiale, bien, qui lutte de manière décidée contre la fraude fiscale. Je pense justement qu'il ne suffirait pas d'une gouvernance mondiale, parce que je pense, j'ai essayé de le dire, que la fraude fiscale est consubstantielle au système capitaliste. Donc il faudrait changer les règles du jeu. Et pour changer ces règles du jeu, il faudrait peut-être une gouvernance mondiale, etc. Et on peut développer et discuter de tout ça. Ça me semble, disons, relativement abstrait pour le moment. Pour moi, il y a par exemple une dimension très concrète. Une des raisons majeures pour lesquelles les milieux dirigeants suisses n'ont pas voulu entrer dans l'Union européenne, c'est précisément parce que c'est un paradis fiscal suisse, parce qu'il y a un paradis fiscal suisse, parce que les taux d'imposition sont inférieurs, parce qu'il y a le secret bancaire, parce qu'il n'y a pas l'échange automatique d'informations, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils veulent, et ils n'ont pas voulu, et ils ne veulent toujours pas entrer dans l'Union européenne. Donc ça, c'est une mini gouvernance. Bien, et de ce point de vue-là, vous ne me contredirez pas, au sein de l'Union européenne existe en principe l'échange automatique d'informations entre les pays. Donc, disons modestement, demandons que la Suisse et que le Conseil fédéral veuillent bien entrer dans l'Union européenne, et de ce point de vue-là, ça sera un progrès du point de vue de la lutte contre la fraude fiscale en Suisse, et les Suisses ne pourront pas dire, comme d'habitude, commencez à faire vous et après on vous suivra. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de relativement important. Dernière chose, il faut juste se rendre compte qu'on est dans une crise financière fantastique. On est juste dans une crise qui n'est pas seulement financière, on est dans une crise qui est une crise financière, économique et écologique majeure. Bien, où les trois conjuguent, et social conjuguent, et qui donnent quelque chose d'extraordinairement explosif. Donc, et morale peut-être. Bien. et morale et culturelle. Et voilà, je peux aussi mettre un certain nombre d'adjectifs. Disons, on est dans une crise globale, mais je pense que la composante, par exemple, économique et la composante écologique sont juste fondamentales, parce qu'on va droit dans le mur du point de vue écologique. Bien. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, puisque les États ont déboursé des centaines de milliards pour sauver la finance internationale, qui recommence à spéculer de plus belle. Bien, bien. Et qui fait des profits fantastiques sur la dette de l'État, maintenant. Bien. Maintenant, on a la crise financière des États, bien, dont on voit les premières prémices avec la Grèce, le Portugal, l'Espagne, etc. Donc maintenant, il faut sauver un certain nombre de maillons faibles dans les États. Avec, vous avez vu, le plan qui vient d'être voté par l'Union européenne, le FMI, etc., de l'ordre de 700 milliards. Bien, pour sauver, entre guillemets, maintenant, non pas les États, mais permettre que les banques qui ont prêté aux États et qui veulent continuer à spéculer sur la banque de l'État, il n'y ait pas de problème de ce point de vue-là. Bref, des centaines de milliards, ou même des milliers de milliards, qui sont déboursés en l'absence de tout débat démocratique, en quelques semaines, généralement, parce que le plan de sauvetage des banques, c'était quelques jours. Bien, le plan de sauvetage, là, ça se discute en vitesse et ça se prend dans la nuit de dimanche à lundi. Bien, OK, sans aucune consultation, rien. Bien, OK, des milliers de milliards. Mais quand il s'agit aujourd'hui de faire la moindre réforme sociale, bien, quand il s'agit de débloquer les moindres millions, pour par exemple prendre des mesures sérieuses d'un vrai plan de relance écologique, c'est-à-dire d'un plan d'investissement décisif, massif à l'échelle internationale pour les économies d'énergie, simplement par exemple pour créer des régies publiques pour l'isolation des bâtiments dans toute l'Union européenne à une échelle massive, parce que c'est comme ça uniquement qu'on arrivera à diminuer massivement la consommation de pétrole et la consommation de gaz et la consommation d'énergie nucléaire, bien, alors là, les milliards ne sont pas du tout présents. Et je termine sur juste cette petite chose. Est-ce que relancer la spéculation financière, attirer les hedge funds, etc., qui va créer, je n'en doute pas un instant, quelques milliers ou peut-être même quelques dizaines de milliers ou sauvegarder quelques dizaines de milliers d'emplois de gestionnaires de fortune qui, comme Mme Zaki l'a dit, s'attribuent, disons, entre 200 et 500 000, je trouve qu'elle est plutôt modeste, entre 200 et 500 000 francs de revenus annuels.
Ce sont les chiffres de Genève.
Est-ce que ça, c'est la société qu'on veut ? Créer quelques dizaines de milliers d'emplois, ou est-ce qu'on veut une société où, à travers un tel plan d'investissement, on pourrait créer des millions d'emplois, qui sont absolument nécessaires du point de vue écologique et économique, donc diminuer de manière massive le chômage. Et diminuer de manière massive le chômage, ça nous évitera ces débats de plus en plus délirants avec des conséquences de plus en plus délirantes sur l'identité nationale, le communautarisme, les minarets, la burqa, le renvoi des criminels étrangers, et j'en passe, avec le passage dans une société qui, moi, m'inquiète de plus en plus, parce que c'est une société ultra-autoritaire vers laquelle on va. Donc, moi, pour moi, mon choix, disons, est fait de ce point de vue-là.
Alors, merci. Dernière question, et puis après, je pense qu'il y aura une réponse. Je suis désolé, mais Johan, il y a un moment qui levait la main.
C'est lui qui a la main. Je ne suis pas sûr que c'est une question, mais c'est un constat. Vous avez parlé, Madame Zaki, un peu de la conséquence de l'abolition du secret bancaire ici à Genève. Mais vous ne parlez pas des conséquences de l'existence des secrets bancaires ici à Genève pour les pays du Sud. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de conséquences sociales, économiques et des vrais drames au sud de l'existence des anciens bancaires en Suisse. Les fronts du Valier, les fronts Marcos, les fronts du Congo, etc., a des conséquences terribles, l'évasion fiscale qui ne peut pas être investie dans l'éducation, la santé, etc., dans les pays du sud. Et ça, il faut, là, on a oublié dans les débats, mais ces existences-là a des conséquences terribles. Et pas la perte, c'est pas la perte de 7000 emplois ou 10000 emplois, c'est les 10 millions d'emplois et des gens qui souffrent dans les pays du sud. Ce n'est pas une question de plaidoyer pour les gens de ces gens-là, mais je crois qu'il faut être clair par rapport à ça, que c'est vraiment, il faut lutter contre l'existence des secrets bancaires et l'évasion fiscale.
Est-ce que Mirezaki voulait répondre à ceci?
Alors, simplement, vous avez mentionné des affaires du Valais, etc., qui rentrent plutôt sous l'intitulé de blanchiment d'argent qui date des années 80. Et aujourd'hui, apparemment, la Suisse a été une des plus zélées pour prévenir le blanchiment d'argent, pas l'évasion fiscale. Tout ça, c'est du détournement de fonds publics. Il y a eu les affaires Abacha, Pinochet. La Suisse a été vraiment la Suisse de Ziegler, hein, la Suisse lave plus blanc dans les années 80. En 98, elle a édicté la LBA, la loi anti-blanchiment. Il n'y a plus eu autant de blanchiment en provenance du Sud. Quand il y a eu l'affaire de l'argent du président angolais, la Dos Santos, en 2006, la Commission fédérale des banques a fait fermer une banque qui avait une succursale qui acceptait les avoirs du président d'Angola. Donc, je dirais le blanchiment, c'est derrière nous, mais l'évasion fiscale de citoyens européens, principalement, c'est essentiellement vraiment l'argent européen. Ici, en Suisse, la Suisse vivait de l'argent européen, les bas de laine des deuxième et troisième générations de Français, d'Allemands, de Belges, d'Espagnols non déclarés. Ça, c'était vraiment la vraie. Mais l'argent du Sud, aujourd'hui, vous avez l'argent du Golfe qui vient pas ici pour des raisons fiscales. Par contre, vous avez l'argent russe. Il faut mentionner vraiment qu'aujourd'hui, l'argent russe et des républiques de l'Est vient en grande quantité ici. Il est non déclaré souvent. Souvent, on parle aussi de blanchiment, à mon avis, parce que ça passe dans de l'immobilier de luxe qui vaut 70 millions de francs, comme ça, tout droit, parce que c'est de l'immobilier. On ne fait pas les mêmes vérifications que dans les banques. Enfin, ça a un petit peu changé, mais je dirais que le problème, c'est plus aujourd'hui l'évasion européenne que le blanchiment des potentats africains. Écoutez, vous avez, donnez-moi un exemple, alors, parce que là, on va... Il y a toujours cette imagerie, oui, je sais, je suis la première, j'ai lu aussi les livres de Ziegler, mais c'est plus tellement ça aujourd'hui le problème. Il y a du blanchiment, il y a bien sûr qu'il y a du blanchiment d'argent, il y a de l'argent criminel. Probablement. Aujourd'hui, il y a des règles très strictes ici sur le blanchiment. Si malgré ça, vous dites qu'il y a énormément de blanchiment, ça veut dire que cette réglementation est complètement inefficace. Alors, il faudrait enquêter là-dessus sérieusement et établir ça. C'est une bonne idée. J'en ai pas connaissance aujourd'hui, mais peut-être.
Oui. Est-ce que Sébastien, qui avait encore dit quelque chose? Après, on doit malheureusement arrêter.
Sur le blanchiment, juste quelque chose qui vient de se passer. Donc, ça, c'est ni du passé, c'est du présent. C'est la décision qui a été prise il y a 2 jours par le ministère public de la Confédération, disons l'autorité de police la plus élevée de la Confédération à propos de l'affaire Hollenweger, c'est-à-dire à propos de Oscar Hollenweger, ce banquier qui a été arrêté en Allemagne il y a quelques années. Bien. Alors, le ministère public a retenu comme titre d'infraction pour ce Hollenweger, le blanchiment d'argent pour les caisses noires de Alstom, c'est-à-dire d'une grande entreprise de production d'appareillage électrique, de transformateurs électriques française, à travers lequel Alstom soudoyait, corrompait sa clientèle en Amérique latine notamment, ou dans toute une série de pays. Bien, mais... C'est ça qui m'a juste sidéré dans ce jugement. Le ministère public de la Confédération n'a pas retenu comme poursuivable du point de vue pénal le fait que M. Hollenweger a accepté en connaissance de cause puisque la personne qui lui a remis ce montant, qui était de 934 000 euros, environ 1,5 million de francs suisses, lui a dit en connaissance de cause qu'il s'agissait du produit du trafic de drogue. Et donc, M. Oscar Hollenweger a accepté en connaissance cet argent. Mais le ministère public considère que ce n'est pas une infraction pour laquelle il peut le poursuivre, puisque la personne qui lui a remis cet argent était un agent infiltré du ministère public de la Confédération. Bien. Ce qu'il faut juste savoir, pour savoir le personnel politique qu'on a à la tête de cet État, c'est que M. Hollenweger était très proche de Christophe Lohrer et le meilleur ami d'un conseiller national UDC que vous connaissez probablement, qui s'appelle Mörgeli. Bien, pour moi, ça veut dire beaucoup, disons, sur le personnel politique suisse et sa prétendue volonté de lutter contre le blanchiment d'argent.
Voilà, alors je crois qu'il faut arrêter ici. Je remercie chaleureusement à nos deux intervenants. C'était très stimulant. On pourrait continuer très longtemps. C'était vraiment des choses qu'on ne peut pas lire tous les jours. Alors, encore juste une question, juste une petite chose. Si vous pensez que le problème de l'évasion fiscale est très, très important, si vous avez envie de faire quelque chose, venez à ATTAC. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et puis, pour terminer, j'aimerais encore un petit cadeau d'ATTAC pour nos deux intervenants. S'il vous plaît, n'oubliez pas de déclarer. On sait que certaines personnes oublient beaucoup. Alors, merci encore une fois. Et bonne soirée à tout le monde.